cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle écoute comparée. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une œuvre peut-être pas très connue, mais vraiment passionnante de Tchaïkovski, Roméo et Juliette. Un thème que les romantiques ont beaucoup traité. On peut penser notamment à Berlioz et puis tous les opéras comme celui de Gounod. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'influence de Shakespeare sur Tchaïkovski ? Est-ce que c'est une œuvre purement narrative déjà ?
C'est une œuvre purement narrative qui a surtout fasciné la plupart des musiciens slaves. Tchaïkovski, lui, d'ailleurs, a composé 3 œuvres en prenant appui sur des textes de Shakespeare, Hamlet, Roméo et Juliette et puis La Tempête. Alors le propos de Tchaïkovski était évidemment de mettre en valeur à la fois la haine entre les Montaigu et les Capulet, mais en même temps la passion entre deux êtres. Il faut rappeler quand même que Shakespeare lui-même avait été fasciné par un texte d'un Italien à la fin du XVe siècle, qui était Luigi di Porto, et qui avait déjà mis en valeur cette espèce de dualité entre les deux familles. Alors, évidemment...
Et dans la musique, Stéphane, alors
Dans la musique, les premiers compositeurs à s'être intéressés à cela ont été les Italiens, notamment les Italiens de l'époque, l'opéra seria. Et puis après, il y a eu tout le long du 19e siècle et au 20e siècle, de Berlioz, de Gounod, Bellini, jusqu'à Pascal du Sapin, d'ailleurs, des compositeurs qui se sont intéressés à
Roméo et Juliette. Vous ne voulez pas qu'on parle de Tchaïkovski, hein ?
Si, si, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Alors Tchaïkovski, il a eu déjà cette première vision, on va dire, de Roméo et Juliette en 1870. Et ça, on ne le sait peut-être pas toujours, mais il a composé une première version qui n'a rigoureusement rien à voir avec ce que nous entendons par la suite.
D'accord. Elle date de quand, alors, l'œuvre définitive, entre guillemets ?
L'œuvre définitive date de 10 ans plus tard, donc en 1880.
Alors, si on peut situer un petit peu, peut-être, pour
auditeurs... Alors, ce qui est tout à fait étonnant,
68,
justement.
C'est quoi ? C'est la première...
Alors, 1870...
C'est la première symphonie ?
Voilà,
c'est
on est entre la première et la
donc,
seconde symphonie.
Donc, c'est un Tchaïkovski qui n'est pas connu.
C'est un Tchaïkovski
qui n'est pas... C'est le Tchaïkovski qu'on ne connaît... Pas
tout à fait. Voilà, absolument. Il a voulu donc composer, c'est pas encore une ouverture fantaisie, mais c'est déjà à l'époque un poème symphonique. Il a voulu donc réunir d'une manière extrêmement violente et peut-être sans grand contraste tous les thèmes justement de Roméo et Juliette. Et puis petit à petit, il va dire non, il faut véritablement prendre un petit peu davantage de respiration. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'introduction de cette œuvre est très, très...
D'accord, donc vous voulez dire, en fait, il passe un petit peu, peut-être, d'option narrative à quelque chose de plus psychologique.
Absolument.
Comme on va l'entendre
absolument.
Dans les 8 extraits.
Alors, on ne peut pas parler de leitmotiv, mais il va donner une valeur psychologique à l'œuvre. Et d'une certaine manière, c'est en fait lui-même qu'il se raconte, c'est-à-dire... c'est-à-dire ses propres problèmes de communication avec les autres, notamment ses rapports avec les femmes. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il va rebâtir une œuvre à la fin des années 70. Il y aura une deuxième version entre ces deux versions-là. Puis la troisième,
donc celle qu'on va écouter. Hein,
celle que l'on va
si je ne me trompe pas, la première version a été enregistrée, mais qu'une seule fois. Hein.
Elle a été enregistrée, oui, par Geoffroy Simon. Et c'est un enregistrement qui est paru chez Chandos, qui est assez intéressant, instructif.
Bon, on en parle parce qu'on ne va pas l'écouter. Donc
voilà.
On peut l'éliminer
mais
tout
tous
de
les
suite.
Chefs, et à juste titre d'ailleurs, se sont intéressés sur la dernière version. Et là, nous avons donc une soixantaine de versions, plus exactement 65 versions que nous avons écoutées. Nous en avons donc sélectionné 8. Nous les avons choisies selon un critère un peu particulier, c'est-à-dire véritablement sur cette dimension psychologique de l'œuvre, avec des œuvres, des interprétations qui sont diamétralement, on pourrait dire, opposées les unes aux autres, mais qui ont toutes un côté vraiment très passionnel. Juste petite remarque, il est évident que nous n'avons pas présenté des œuvres monophoniques, tout simplement des versions monophoniques, tout simplement parce que depuis un demi-siècle, il y a suffisamment de versions remarquables en stéréo et qui nous paraissaient beaucoup plus intéressantes, ne serait-ce que sur le plan purement auditif, de nous intéresser à cela. Ça ne remet absolument pas en cause, évidemment, les premières versions.
On en parlera peut-être en fin de podcast.
Parce que peut-être ce qu'il faut dire aussi, Bertrand, c'est que même si ce n'est pas très connu en France, comme vous le disiez au début de l'émission, en fait, c'est une œuvre qui est un véritable cheval de bataille pour les chefs d'orchestre, Hein, et aux États-Unis notamment, les chefs d'orchestre, depuis très longtemps, jouent cette pièce et le public teste les pièces sur, teste les orchestres sur le Roméo et Juliette de Tchaïkovski.
Oui, tout simplement, parce que dès les premières mesures, comme on va l'entendre tout de suite, il faut donner une ambiance, il faut donner un climat. Et on peut jouer magnifiquement bien cette œuvre et passer complètement à côté, tout simplement parce qu'on ne travaille simplement que sur les couleurs et les timbres. Or là, il faut véritablement s'investir. Et dans les enregistrements que nous allons entendre, il y a probablement des lives et on va s'apercevoir d'un étonnant impact et d'un investissement extraordinaire des musiciens.
On va entendre ça. Première version donc. Stéphane Friedrich, qu'est-ce que vous pensez de cette première version de Roméo et Juliette de Tchaïkovski?
Eh bien, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le grain, la matière sonore qu'il y a sur cet enregistrement qui a priori a l'air d'être un enregistrement public. Et en même temps, malgré le son peut-être un petit peu daté, notamment au niveau des bois, il y a véritablement une respiration qui est assez extraordinaire. À la fois, c'est une théâtralisation et en même temps une très grande souplesse, une très grande fluidité au début, une présentation du décor, on pourrait dire. En réalité, c'est le thème tout simplement de Frère Laurent. Et petit à petit, il y a une vie intense qui se développe, avec en même temps un côté très exacerbé, mais jamais de choses qui partent un petit peu dans tous les sens.
On entendra c'est plus extrêmement... violent, hein, sans doute.
Hein. Oui, on entendra plus violent, mais là, il y a un parfait équilibre, il y a une parfaite clarté et surtout une très, très grande présence. On sent vraiment que les musiciens s'investissent complètement dans cette lecture. Pour moi, c'est une version très enthousiasmante.
Mmh. Eric ?
Oui, c'est une version qui a un bon équilibre entre la discipline et l'exaltation, je crois. Et pour ça, c'est effectivement assez intéressant. C'est bien conduit. On n'a pas l'impression, comme ça peut parfois arriver, qu'on tourne en rond. C'est un peu le défaut qui peut guetter les orchestres dans cette pièce. En même temps, on a été habitué à entendre aussi des démonstrations de sonorité, de prise de son et aussi peut-être de virtuosité orchestrale plus splendide. Et donc on se dit qu'on reste un petit peu sur sa fin. Voilà, il faut un petit peu reconstituer dans sa tête par l'imagination ce qu'a pu être ce concert. C'est dommage.
Oui, parce que moi j'ai noté que les équilibres sonores n'étaient pas toujours parfaits. Enfin, il y a des choses vraiment artificielles dans la prise de son. Ça, Stéphane a dit, mais la petite harmonie a des valeurs qui sont vraiment...
Live, oui.
Non, c'est vrai. Qui sont un peu trop fortes. Et puis... Bon, sinon, c'est une belle version, effectivement, mais moi, je pense qu'on aura certainement mieux.
Il y aura certainement
Elle ne tombe pas dans un défaut qui... Bon, peut-être que, Stéphane, vous n'avez pas mis de version comme ça, mais l'aspect séquentiel de cette œuvre qui peut être simplement la mise à bout d'atmosphère, là, on a quand même un vrai discours et c'est vraiment intéressant d'avoir ça. C'est très bien rendu. Ouais. Mais bon... C'est vous, Stéphane, vous mettriez
oui,
un 10
moi, oui, je serais pas loin d'un 10 pour ce type de version, parce qu'il y a véritablement un engagement.
Je crois pas que ça manque un peu de folie, quand même, dans le passage de combat un peu.
Je crois que justement, il y a l'équilibre, et en même temps, c'est un orchestre qui quand même est très typé.
C'est très russe, non? Enfin, je me trompe peut-être, je ne veux jamais s'avancer à dire ça. Moi, j'ai trouvé que dans le début, notamment, tout l'aspect choral, etc., fait vraiment choral orthodoxe.
C'est un orchestre qui joue vraiment dans l'esprit russe. Alors, est-ce qu'il est russe? Mais en tout cas, c'est un orchestre qui joue vraiment dans cet esprit et qui a bien compris. Et surtout, il y a une fluidité dans le discours. Justement, ce que soulignait Bertrand, c'est qu'il n'y a pas du tout ce morcellement que l'on peut entendre.
On passe d'un passage à l'autre de manière, avec une logique implacable. Et puis en même temps, bon, tout est bien caractérisé. Mais moi, je trouve que ça, même si c'est très contrasté, ça manque un petit peu de folie peut-être dans l'exacerbation justement de ces contrastes.
Probablement une folie qu'on a beaucoup plus l'occasion de rencontrer dans des enregistrements en studio.
Ah, c'est un peu paradoxal, mais alors écoutons la deuxième.
Thank you.
deuxième version de Roméo et Juliette, Stéphane, très différent de la première. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, on a une idée un petit peu davantage de ce que l'on craignait tout à l'heure, c'est-à-dire d'un morcellement en réalité de la lecture. Mais ça, c'est dû peut-être à une prise de son qui a l'air aussi assez relativement ancienne et peut-être même multimicro, c'est-à-dire qu'il y a une focalisation sur différents pupitres. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une grande cohérence dès qu'on atteint...
La prise de son ne fait pas les tempos quand même, hein.
Non, mais elle favorise justement ce morcellement et elle indique justement ces couleurs, cette espèce de placement. On entend successivement très bien l'harmonie, la percussion, les cordes, etc., surtout les cordes basses. Et petit à petit, on se dit, mais comment va-t-il pouvoir développer cela s'il reste sur ce décor, justement, qu'il plante? On a l'impression presque d'un décor vraiment romantique, c'est-à-dire l'entrée d'une chapelle avec un clair-obscur. Et puis on se dit, mais comment va-t-on pouvoir faire entrer la passion dans ce type de décor? Et puis finalement, dès le premier crescendo, on s'aperçoit qu'il y a un déploiement de puissance assez jouissif d'ailleurs de la part de l'orchestre, et ça c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je pense que cet enregistrement, cette version mérite vraiment une écoute sur la distance, contrairement à la première qui elle entrait tout de suite dans un climat et nous plongeait tout de suite dans l'œuvre. Là on
est-ce que c'est
on
pas simplement parce qu'elle est plus réussie la première? Non,
je pense pas. Je pense tout simplement probablement parce que la première, il y a l'envie de se dire on va raconter immédiatement une histoire, on va entrer tout de suite dans le cœur de l'ouvrage. Le cœur de l'ouvrage, c'est Roméo et Juliette. Et le reste va être un décor. Ici, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il plante d'abord un décor, et puis après, une fois que le décor est planté, il va faire entrer ses personnages.
Moi, j'ai eu un peu l'impression que dans la deuxième version, au contraire, enfin, je vais dire un peu la même chose que vous, Stéphane, mais différemment et peut-être de manière plus négative. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce chef... aime bien les points d'orgue et à concentrer son orchestre sur ces moments-là. Mais alors, par contre, tous les moments lents qui sont très lents, avec un tempo très étiré, et moi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi en faire, en fait. Les quatre premières minutes, j'ai trouvé assez ennuyeuses. Un peu gentilles, en plus, dans le ton. Moi, j'avais l'impression d'être dans Onéguine, dans les scènes de bal. On batifole, on passe d'un pupitre à l'autre, comme ça. Et alors, après, tout à coup, on est très concentré, nerveux, dur, dans les passages dits de combat. Après, bon, je ne sais pas trop exactement ce que Tchaïkovski a voulu faire. Mais, et du coup, ce morcellement, moi, m'a pas vraiment convaincu. J'ai l'impression que l'orchestre est concentré sur certains moments, et puis à d'autres, ça flotte, et on attend que ça revienne, quoi. Enfin...
Ouais,
non, Eric, vous êtes
tout à fait d'accord. Si, absolument. On a vraiment un sentiment d'attente qui dure un peu longtemps.
Pendant... Alors au début, on se dit oui, c'est ça, c'est voilà. De l'attente, mais bon, à force
exactement.
D'attendre, on en a.
On a vraiment l'impression que là où et l'orchestre et le chef sont vraiment intéressés, c'est le passage Allegro. D'ailleurs, c'est très symptomatique. Hein, à la première accélération, d'un seul coup, on se dit tiens, ça y est, enfin, il se passe quelque chose.
Oui,
on
puis même la sonorité de l'orchestre, elle est enfin harmonieuse. Enfin. Tout à coup, on a l'impression qu'ils se reprennent. Quoi.
C'est... Non, mais dans les toutis aussi, la prise de son est moins, discriminante que
oui,
lorsqu'il y a juste les pupitres qui apparaissent les uns et les autres. Parce que c'est vrai que c'est une prise de son qui rend un peu creux l'orchestre, quoi. Hein, à force de focaliser sur chacun des instruments. C'est même pas les pupitres, c'est carrément sur les instruments qu'il y a des...
Oui, on a une flûte à un moment. Ouais.
Oui, moi, ce qui m'intéressait dans cette version, je pense, c'est le côté opératique, qui change radicalement de ce qu'on a entendu dans la première version. Et là, on est vraiment dans l'univers lyrique, c'est-à-dire qu'on a, le rideau, on a une ouverture, au lever de rideau,
juste.
On a véritablement l'action qui...
Mais vous avez raison, Stéphane, il faudrait peut-être celle-ci l'avoir écoutée en entier. Mais bon.
Est-ce qu'elle a une véritable...
On a déjà écouté 8
elle
minutes,
a une véritable cohérence, absolument.
Alors, écoutons maintenant la troisième version. Donc c'était la troisième version de Roméo et Juliette. Alors encore une version très différente des précédentes, que j'ai trouvée très frustrante, moi, à cause de, notamment de la prise de son. Stéphane, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'écoute ?
Justement la caractérisation de cette version, qui mêle à la fois une très grande pudeur au début, notamment dans le choral, une grande gravité, une sorte de calme, de douceur et de tristesse qui correspond tout à fait à l'œuvre, avec une belle souplesse dans les pizzicati des cordes. On a véritablement un climat qui est extrêmement intéressant parce qu'en même temps, il prépare à la psychologie et à l'entrée des personnages. Le problème, c'est vrai, nous l'avons souligné lors de l'écoute les uns et les autres, c'est que justement, il y a eu probablement un tripatouillage au niveau du mastering.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ou de la prise de son, parce que là, pour le coup...
Pas de la prise de son, à mon avis, lors du remastering. Malheureusement, c'est le seul enregistrement dont on dispose aujourd'hui, qui fait qu'il y a des réverbérations qui ont été ajoutées, et en même temps, une forme de compression au niveau de la dynamique. Donc l'un et l'autre combinés...
Bah oui, dans une œuvre aussi spectaculaire, j'avoue que le plaisir...
Font qu'on perd une partie de cette lecture qui, pourtant, est assez remarquable sur l'expression et sur la qualité de ce qu'elle... Non, vous n'avez pas l'air convaincu.
Non, je crois qu'Éric n'est pas du tout convaincu. Non. Et moi non plus, d'ailleurs. Alors. Mais bon, Éric, vous voulez peut-être
dites-nous.
En dire un mot.
Je me lance. Bon, d'abord, il y a effectivement cette question de prise de son qui est complètement invraisemblable. Enfin, pour moi, ça tue absolument tout plaisir. Mais il n'y a aucune... On n'arrive absolument pas à se repérer dans l'espace. Je pense qu'il y a plusieurs... On a l'impression, en tout cas, qu'il y a plusieurs ambiances acoustiques.
On dirait que c'est un montage, pratiquement,
comme si
plusieurs prises de son.
Absolument, dans des pièces différentes, dans des salles différentes. C'est vraiment l'effet que ça fait. Plus que déjà été souligné, des effets de compression et de réverbération, probablement artificielle, j'en sais rien. Mais en tout cas, on s'y perd complètement. Et deuxième, quand on essaye de passer au-delà, moi j'entends surtout un bon gros orchestre bien sûr de lui, et un chef d'orchestre qui sait que sa machine va bien répondre. Et donc on joue, on se pose pas trop de questions. On a en plus les ingénieurs du son derrière, si jamais il y a un truc qui colle pas. Et on y va, on se déchaîne bien dans l'allegro, sauf qu'on maintient pas bien la pulsation parce que ça avance un petit peu comme ça peut, on se laisse aller, c'est pas tenu, je trouve, comme interprétation. Donc voilà, c'est la version virtuose bâclée.
C'est un peu
d'accord.
Méchant quand même. Hein.
Moi j'ai été pris par le début en fait, j'ai bien aimé l'orchestre notamment, qui est très homogène, très juste. Ça nous changeait un petit peu des deux premiers qui étaient intéressants, mais pas toujours très intrinsèquement beaux. Enfin, et puis alors après, la prise de son change, tout change. Et puis j'ai l'impression que vraiment les interprètes n'ont rien à dire. C'est effectivement une belle machine, d'après ce qu'on peut imaginer, parce qu'on n'entend pas une belle machine, on entend surtout de la réverbération, une prise de son écrasée avec un... On l'a pas dit, mais il y a le spectre sonore aussi. Il n'y a aucun aigu, par exemple, c'est quand même dommage.
Ça dépend des moments.
Oui, c'est vrai. Au début, il y en a, après, il n'y en a plus. Alors au moment où on en a besoin, en fait, il n'y en a plus. C'est très bizarre.
Oui.
Voilà, donc nous, je crois qu'Éric Taver et moi, nous...
Mais donc pas enthousiaste.
Hein. Non, c'est moi qu'on puisse dire.
Oui, enfin, je pense qu'elle a quand même, son attrait et cette version. Mais il est évident que le problème technique, surtout le problème technique, est très discriminatoire.
Mmh. Alors on espère qu'avec la quatrième, on va avoir une prise de son enfin à la hauteur, parce que jusqu'à présent, je dois dire que finalement, c'est la première qui était live qui avait le meilleur rendu sonore.
Oui, la plus cohérente.
Ça fait plaisir d'entendre enfin Roméo et Juliette, non, Stéphane?
Disons que c'est du grand spectacle et avec une prise de son qui là ne pose plus tous les mêmes problèmes qu'on a connus dans la version précédente.
Elle ne pose pas vraiment de problème d'ailleurs, non?
Non, d'ailleurs, je crois qu'elle ne pose absolument aucun problème. Au contraire, on est véritablement dans un petit peu le mélange de tous les sentiments que l'on attend précisément dans cette œuvre. D'abord, elle s'ouvre avec une rondeur du son, un lyrisme qui est assez extraordinaire, des cordes basses qui nous ont fait d'ailleurs bien sourire. Il y a une sorte de balancement entre les vents et les cordes. C'est vraiment du grand spectacle. À un certain moment, d'ailleurs, on pourrait même penser à Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Il y a ce côté très, très coloré, presque orientalisant. Alors, moi, le seul petit regret que j'ai là dans cette partie-ci, au début, c'est peut-être que les bois soient un petit peu légers, manquent un peu de personnalité, soient peut-être un peu froids. Cela étant, il y a une hauteur de vue qui est telle et qu'on arrive à des choses extraordinaires. J'ai parlé là, par exemple, de Rimsky-Korsakov, mais on pourrait aussi évoquer Wagner dans l'allongement de la phrase, qui est assez caractéristique.
C'est juste.
On pourrait même croire d'ailleurs que c'est Juliette qui arrive déjà au tombeau. Et puis dans le crescendo, dans le passage justement Allegro Giusto, il y a véritablement cette sensualité à la fois mêlée de violence extrême dans le combat.
Oui,
on entend vraiment le choc des épées entre ces hommes et ces clans qui s'affrontent. Non, c'est vraiment une version superbe, extraordinairement colorée.
Moi, ce qui m'a vraiment marqué là, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une cohérence totale entre les désirs du chef et ce que réalise cet orchestre. Et vraiment, c'est d'une cohérence totale, quoi. J'ai vraiment été, mais vraiment, il y a des moments bluffants, quoi, qui sont proches du génie, quoi. Enfin, c'est vraiment.
Tous les moyens de l'orchestre sont utilisés.
Extrêmement musical.
Les moyens de l'expression sont utilisés, que ce soit le vibrato, les nuances. Et je voudrais juste ajouter à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. L'idée que s'il ne s'agit pas d'une version de démonstration, moi je trouve que c'est une version très bien construite. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu jusqu'au moment où on s'est arrêté a quand même aussi un côté d'exposition. On sent qu'il va encore se passer des choses.
Ah oui, on sent que la fin va être totalement cataclysmique.
C'est hyper narratif.
Les fortés sont des fortés, les fortissimos sont des fortissimos, contrairement à ce qu'on a pu entendre auparavant, d'ailleurs. Et ça donne, je crois, une espèce de stabilité. Alors qu'il déchaîne tous les éléments en même temps. Donc c'est vraiment une version que je trouve absolument passionnante. On aurait vraiment envie d'aller un petit peu plus loin pour entendre aussi les thèmes un petit peu plus chantants.
Oui, parce qu'on est vraiment à la fois dans l'instant et dans la construction. Et il y a un sentiment qui est toujours présent chez Tchaïkovski et qu'on a bien ici, qui est magnifiquement rendu, c'est le pressentiment, le destin. Là, on a l'impression que tout va s'écrouler à la fin, dès le début, dès le premier accord.
On parlait d'attente tout à l'heure ou de décors qui étaient plantés. On trouvait que ça durait un petit peu longtemps. Là, on est dans l'attente, mais en même temps, c'est une attente qui gronde dessous. Quoi.
Oui, et puis c'est d'une telle subtilité musicale. À chaque note, on a l'impression de découvrir des choses. C'est remarquable, vraiment remarquable. Moi, j'ai été conquis.
Nous avons tous été conquis.
Alors, version numéro 5.
Thank you.
Version numéro 5 de Roméo et Juliette. Je rappelle quand même à ces personnes qui écoutent notre podcast que les versions que nous entendons, nous ne savons absolument pas qui dirige, quel orchestre. C'est pour ça que je les nomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplement, nous sommes dans l'inconnu. Alors là, cet inconnu est très très différent de ce qu'on a entendu précédemment. Version très rigoureuse, classique, serrée, assez allemande, j'ai envie de dire.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, alors là, non, pas du tout. Pour moi, nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ce soit une version à l'opposé totale de la quatrième, de celle que nous avons entendue précédemment.
Même de toutes les précédentes.
Mais c'est une version qui me semble assez passionnante par le fait qu'elle met en valeur totalement la psychologie, presque la psychologie même du compositeur en premier lieu. C'est-à-dire que c'est une version qui reste totalement...
Ça me paraît un petit peu obscur.
Du début jusqu'à la fin, intimiste. On a l'impression que toute la violence qui doit être exprimée, et Dieu sait qu'elle est extrêmement précise, est complètement intériorisée. Ce qui fait qu'on entre dans une version complètement chambriste au début, avec une très grande douceur, une idée presque de la confidence. Et puis petit à petit, cette élégance, cette fluidité, je ne sais pas si vous avez remarqué comme les pupitres sont d'une beauté, d'une clarté assez étonnante, mais en même temps très typée.
Oui, c'est un orchestre magnifique.
On quitte ce climat vaporeux, presque de conte fantastique, pour rentrer dans une sorte de fragilité expressive, mais en même temps cette violence, et puis en même temps c'est extrêmement bien, mesuré sur le plan vertical. C'est peut-être pour ça que vous avez parlé là de Brahms, et que vous avez évoqué
Je pense qu'on a pensé à Brahms, ou en tout cas de la musique allemande. On a l'impression presque du Bach à un moment, ou du Beethoven, enfin on dirait l'héroïque, un petit peu la fugue. Moi j'ai trouvé ce côté serré, mesuré, effectivement, très tenu. On n'a pas du tout la démesure, évidemment, qu'on a eue dans la quatrième, là, par exemple, la version précédente.
Oui, mais est-ce que c'est pas justement...
Moi, je n'ai pas senti cet aspect intimiste. Moi, j'ai senti plutôt que c'était une version purement musicale, qui n'est pas psychologique, même apsychologique, je dirais. On fait de la musique, on essaie de ne pas faire trop de bruit, parce que quand même, Tchaïkovski, il ne faut peut-être pas exagérer, c'est une musique un petit peu folle, mais on ne va pas la jouer comme ça. C'est pour ça que j'ai
non,
dit...
Je crois pas.
J'ai dit allemand, bon, c'est peut-être pas très heureux comme terme, mais...
Non, je crois qu'il y a une cohérence.
C'est cohérent, j'ai pas dit le contraire,
c'est pas parce qu'il y a une grande,
c'est très rigoureux.
C'est pas parce qu'il y a une grande rigueur que...
Moi, j'attends plus de démesure quand même dans cette musique, qui est quand même une musique du feu, de la folie, du...
Non, moi, je crois que c'est le chef et l'orchestre ont une interprétation qui est véritablement un jeu sur les couleurs et sur les intentions.
Mais c'est quand même l'amour fou qui va jusqu'à la mort. Là, on l'a pas du tout. Enfin, franchement.
Si, on a ce côté à la fois ces climats extrêmement.
Moi, j'entends de la belle musique, c'est
sensible.
Tout. Voilà. Enfin,
non, c'est
non narrative.
Je crois pas même.
C'est pas du
tout
un problème symphonique.
Que ce soit
là, on a quelque chose de.
On est presque dans une vraie symphonie. Moi, j'ai trouvé le mot qui m'est venu, c'est abstrait. On a l'impression que tout est un peu transcendé dans l'imagination du chef d'orchestre, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on pense à Brahms. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'introduction du final de la première symphonie, avec qui est d'ailleurs un peu tchaïkovskien, mais bon, il n'y a pas de hasard, et tout ça étant aussi alimenté par Wagner. Mais bref, il y a quand même cette idée qu'on va construire quelque chose de très solide, on sait pas du tout, on n'est pas du tout dans la fantaisie, on est presque dans la construction d'un mouvement de sonate ou d'un premier mouvement de symphonie, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a de la sensualité dans les dosages, notamment, qui sont
magnifiques.
C'est
très réussi, hein, musicalement. Moi, on a exprimé des réserves, là. Enfin, c'est pas des réserves, en fait, on décrit, on trouve ça très bien.
Bien sûr, il y a une efficacité dramatique, mais encore une fois, qui est un petit peu vue d'en haut, un peu intellectuelle, où on oppose des moments très étals avec des moments très verticaux, au contraire.
Oui, est-ce que c'est le caractère de, à la fois de Tchaïkovski et de
Roméo et Juliette ? Non, il faut se poser la question, est-ce que ça fonctionne ? Pour moi, ça fonctionne.
Oui, est-ce que
le chef et l'orchestre se sont donné les moyens de réaliser ce qu'ils veulent faire dans ce type d'interprétation ? Pour moi, c'est absolument parfait.
Mais on trouve un peu le paradoxe du mois dernier, quand on a écouté la 104e symphonie de Haydn, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, la version Célibidache. C'était cohérent, mais c'était pas la 104. Alors là, je compare mais c'est bien de vouloir appliquer.
On travaillait sur une 104 avec des instruments modernes et avec un chef qui avait un parti pris qui était jusqu'au boutiste. Là, non, il ne s'agit pas d'un parti pris.
Non, c'est moins extrême, c'est sûr.
Là, on est vraiment dans le style, il joue vraiment la partition de Tchaïkovski. Il n'y a pas de problème de tempi ou de problème
de contraste, c'est juste,
simplement, ils sont allés au bout d'une démarche où ils veulent justement montrer davantage la violence intérieure que la violence de la quatrième version qui est là et complètement
plus
explosive.
Plus extérieur, c'est sûr. Pourquoi pas ?
Il y a ce combat,
en fait,
il y a cette dualité
vraiment une question
qui est tout à fait passionnante. Et là, c'est vraiment une question de goût, en effet.
Alors, la version numéro 6. Stéphane Friedrich, vous nous aviez promis des versions très différentes. Effectivement, là, je dois dire que depuis le début, à chaque fois, on a l'impression d'écouter une œuvre un peu différente. Là, on est proche de la symphonie pathétique, je trouve, dans les ambiances,
oui,
le c'est contrôle du son, la grandeur.
Oui, c'est-à-dire que cette version... Alors là, on parlait tout à l'heure, on reprochait parfois à certaines versions d'être purement instrumentales. Là, pour moi, celle-ci, elle l'est totalement. C'est-à-dire l'orchestre est tellement beau... Le chef s'admire tellement, et c'est tellement hédoniste, presque même à la limite, d'ailleurs, compte tenu du sujet, narcissique, on se dit, mais jusqu'où peut-il aller? Ça, c'est la réserve que l'on peut faire. Maintenant, c'est vrai que la beauté des pupitres, le climat d'enveloppement qui, au début, prélude justement à la mise en place de ce décor, est vraiment extraordinaire. Puis surtout, il y a une puissance souterraine. On se dit, mais jusqu'où peut-il aller? Comment peut-il arriver à développer ça? Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que, évidemment, l'orchestre fonctionne. C'est une énorme machinerie avec un son très, très fondu, très, très rond, avec des vents. C'est même presque gênant par rapport à d'autres versions.
C'est presque brucknerien. Hein,
oui, c'est presque brucknerien. C'est-à-dire, on est vraiment dans le post-romantisme où les vents sont démultipliés, mais en même temps, il ne faut surtout pas les entendre. Hein, c'est un peu un concept à la Strauss, c'est-à-dire je mets 8 corps, mais néanmoins, il ne faut pas les entendre. Donc c'est un peu ce côté-là. Moi, personnellement, je ne suis pas très touché, je suis extrêmement admiratif de ce genre d'exercice, parce que c'est vraiment une démonstration extraordinaire d'orchestre et de maîtrise, mais je ne suis pas du tout ému comme j'ai pu l'être dans les 4e, oui. 1e, 4e et 5e versions.
C'est intéressant, et moi, au contraire, j'étais très touché par cette version. J'ai trouvé qu'elle exprimait une tristesse dès le début, qui était vraiment très touchante, poignante, et d'une grande cohérence... expressive, enfin de la première note à la dernière. Le chef arrive à tenir un tempo lent tout en étant cohérent et il réussit à animer son discours dans ce tempo qui est quand même difficile à tenir. Il est vraiment très lent, c'est le plus long et par ailleurs peu contrasté par rapport aux autres versions qu'on a entendues. Moi j'ai trouvé ça très touchant, vraiment du début à la fin. J'ai pas retenu d'abord la qualité à la fois de l'orchestre ou de la prise de son, ou de la beauté sonore. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est l'émotion qui se dégage de la musique.
Je ne sais pas si on peut parler d'une émotion naturelle ou pas, mais il me semble que la quatrième version me sentait beaucoup plus impulsive et beaucoup plus physique.
Oui, mais elle est beaucoup plus théâtrale. Là, on n'est pas dans le théâtre, on est dans une émotion plus rentrée. Il y a une espèce de grandeur et de...
Ouais, je sais.
Presque de spiritualité, je trouve,
Je trouve que le côté physique est totalement absent de cette version.
Il est dans la maîtrise orchestrale.
Oui, voilà, exactement. Et ce qu'il y a d'assez frappant, moi j'ai trouvé, bon, je regarde un peu la partition en même temps qu'on écoute, c'est peut-être, paradoxalement, celui qui respecte le plus les indications de nuance de Tchaïkovski. Il est vraiment extrêmement attentif, manifestement, à ça, parfois de façon presque un peu caricaturale, d'ailleurs. Mais du coup, c'est ce qui lui permet de relancer la tension tout en ayant ce tempo relativement lent.
Et donc, on a un rendu subjectif. On a
exactement.
L'impression que c'est ultra subjectif, ouais. Alors que c'est très précis, oui.
Et il y a beaucoup d'événements, hein, y compris dans les passages un peu
disons
calmes.
Qu'il intègre tous les événements.
Exactement. Alors, ce qui est stupéfiant aussi, c'est que de façon très peu tchaïkovskienne, si on peut dire, en tout cas loin de ce qu'on peut estimer être une des forces de l'orchestration de Tchaïkovski, qui est ce côté de mettre les pupitres, les juxtaposer les uns à côté des autres, et souvent de faire des espèces de blocs qui s'opposent. Au contraire, ils font tout le temps. Hein. Et donc, on perd un peu les repères qu'on peut avoir normalement autour de cette partition-là, mais du coup, il nous oblige à l'écouter de façon complètement différente. C'est vrai, de façon parfois... il y va un peu fort par moment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des pupilles qui disparaissent complètement, on n'entend plus du tout, hein, mais il en fait...
il
est noir.
Il y a quand même une certaine lourdeur, enfin, volontaire.
Une puissance,
hein, depuis
moi, je dirais plutôt. Enfin,
ce que j'ai appelé grandeur. Mais
dans l'Allegro, quand Stéphane parlait de puissance souterraine, je partage tout à fait. On a vraiment...
Et là, moi, je trouve pour le coup que c'est bien mieux rendu que dans la version 5.
C'est vraiment l'ouverture d'orchestre, je trouve. Hein, c'est-à-dire à la fois la belle démonstration de machine orchestrale, mais en même temps, on lui fait passer à cette machine orchestrale tous les examens possibles sur la sensibilité, même la sensualité. Le début est extrêmement sensuel aussi, et en même temps la force. Donc ça finit par raconter une histoire, tout ça.
Oui, mais bon, je persiste et signe, comme on dit, justement, sur cette notion de fragilité qui me semble inhérente à l'œuvre.
Vous avez bien aimé, Stéphane, la version numéro 5. Je suis un petit peu surpris que vous n'aimiez pas cette version, la 6.
Pourquoi ?
Parce que les défauts que vous dites, là, pour moi, ils étaient dans la 5, ils n'apparaissaient pas ici.
Non, parce que justement, la 5, dans son côté typé, justement, mettait en valeur cette dimension à la fois fragile, ce côté...
Là, pour le coup, on n'a vraiment pas eu la même perception.
Ce côté qui est profondément touchant, à mon avis, en dehors de la maîtrise technique, qu'on retrouve moins ici, où j'ai l'impression que la technique...
On va inclure un débat. Il va falloir que les éditeurs du podcast nous envoient des mails, des messages.
Hein, ah bah oui,
on peut
très
le faire maintenant sur
évidemment.
Psychobase, donc profitez-en. Hein. D'ici là, on va écouter la 7e version. Thank you. Septième version. J'ai l'impression qu'on ne va pas dire grand-chose de cette septième version. Hein.
Ah si, moi j'ai pas grand-chose à en dire.
Si, si, il y a des choses.
Eric ?
Oui, oui. J'ai beaucoup aimé le début. Beaucoup moins la dernière partie qu'on écoutait, la partie plus allegro avec les bondissements. J'ai beaucoup aimé le début. Pourquoi ? Parce que il y a un vrai travail sur les sonorités qui sont extrêmement typées et il arrive à mélanger ce qui n'est pas si commun que ça dans Tchaïkovski, à la fois une sensation d'harmonie, au sens un travail sur les accords qui est quasiment straussien. Vraiment, il y a des moments où moi j'ai pensé à, je sais pas, à la symphonie alpestre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment magnifique. Et en même temps, beaucoup de vie par petites touches comme ça. Je trouve que ça faisait un très beau premier tableau avec beaucoup de mystère, beaucoup de retenue. Et c'était vraiment assez passionnant, construit comme ça par petits moments qui avancent. C'était très intelligent, je trouvais. J'ai beaucoup moins aimé la partie sur laquelle on s'est arrêté, là, avec l'Allegro Giusto, parce que ça rebondit pas du tout. On sait pas, en plus, on ne sait pas où il va, et j'ai bien l'impression qu'il ne sait pas très bien où il va. Et finalement, on se retrouve avec, justement, là aussi, des petits détails qui sont mis en valeur,
oui,
comme ça.
Oui, des choses artificielles.
Voilà.
Oui.
Qui sont, ça fonctionnait bien, je trouvais, dans le côté presque impressionniste du début. Ça ne fonctionne pas du tout quand il faut avancer.
Oui, je suis entièrement d'accord, en fait. C'est peut-être pour ça que je disais qu'on n'avait pas grand-chose à dire, c'est parce qu'on était d'accord à l'avance. Mais... le début est assez harmonique, effectivement, hein. Plutôt horizontal. Alors évidemment, dans les parties plus verticales, si on peut comparer, oui. Mais c'est assez juste. À la fois l'orchestre et le chef, je suis d'accord avec Eric, on a l'impression qu'ils sont un petit peu perdus, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à bien caractériser.
Oui, c'est une conception totalement statique. Totalement statique. On pourrait presque dire même qu'il s'agit de la 7e symphonie, post-pathétique. Là, on a le luxe d'une machine étonnante.
Après le dernier mouvement, oui. Donc oui, on reste dans un mouvement lent du début à la fin.
Oui, Bertrand, tout à l'heure, vous parliez de conception brucknerienne pour un chef. Là, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'on a une certaine longueur, massivité des timbres, des
fusions. Oui, puis
c'est
surtout l'harmonie qui domine sur tout le reste, quoi. Alors évidemment, quand on n'est que dans le rythme,
absolument,
ça va plus,
avec une dramatisation, une coupure, mais vraiment, alors là, carrément brucknerienne, quand on arrive à la fin du premier crescendo avec le coup des timbales, avec un silence total et puis une reprise progressive. Là, c'est un chef qui vraiment s'approprie cette œuvre dans un sens, on pourrait dire, relativement inédit et qui mérite d'être intéressant.
Qui ne fonctionne pas complètement.
C'est-à-dire qu'on est séduit dans le premier temps, comme le dit très justement Eric, et puis au bout d'un moment, on se dit, à quel moment va véritablement commencer l'histoire de Roméo et Juliette ?
Oui, et puis de toute façon, toutes les versions qu'on a entendues, moi je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à une cohérence entre c'est très contrasté cette œuvre, entre les mouvements de chorale et puis les mouvements rythmiques de bataille.
Combat, hein, oui.
Voilà. Il faut arriver à mettre tout ça en forme et en faire un tout cohérent. Et là, ça fait partie des versions, à mon avis, qui n'y arrivent pas. Donc je la passerai en dessous, par exemple, de la 6e ou de la 4e qui arrivait à faire quelque chose de vraiment très cohérent et personnel en même temps. Donc peut-être on peut passer à la 8e, la dernière version.
Allons-y.
C'était donc la 8e version de Roméo et Juliette. J'ai l'impression qu'on a deux vainqueurs, moi, hein, la 4 et la 8. Stéphane,
oui, oui, et pour les raisons diamétralement opposées, mais ce sont deux parfaites versions tout à fait complémentaires, l'une et l'autre.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette
Alors,
version-là ?
Celle-ci, il y a le côté à la fois noirceur de l'âme et en même temps expression de la solitude qui sont assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'on entre dans un univers complètement rêvé, avec une sensualité, une suavité, des atmosphères moites qui sont complètement incroyables. La maîtrise est fantastique. Pourtant, on croyait avoir tout entendu, notamment dans la 6.
Oui, c'est juste.
On se disait, non, aucun orchestre peut aller au-delà de cela. Et là, on a véritablement tous les regards, tous les aspects qui ont fasciné Tchaïkovski dans son écriture. À la fois la démesure de Berlioz qu'on voit un petit peu plus loin, mais là, dans cette première partie où on expose, on est complètement dans Wagner. On se faisait tout à l'heure la réflexion, on parlait de Tristan ou de Parsifal. Il y a vraiment ce côté de plus en plus creusé au niveau des interventions de l'orchestre. Et puis, à l'issue de cette description, on a une véritable effervescence dans la panique. Et en même temps, toujours extraordinairement
contenue. Mais toujours cette maîtrise extraordinaire, oui, une rigueur orchestrale qui est
parfaite.
Et sidérante.
Une panique très maîtrisée.
Une panique absolument maîtrisée, mais c'est tellement génial parce qu'on a véritablement devant nous les personnages qui apparaissent. Mmh. Et moi, je trouve ça absolument réjouissant parce qu'on est véritablement dans... On ne pensait pas qu'on pouvait avoir deux versions aussi diamétralement opposées.
Éric,
la 4 et la 8.
Est-ce que vous aussi vous opposeriez la version 4 et la 8 qu'on vient d'entendre ?
Oui, ça c'est sûr qu'elles s'opposent. Je crois que j'ai plutôt quand même un petit faible pour la 4, hein, mais voilà. En tout cas, moi, ce qui est frappant, évidemment, c'est comment ici, la maîtrise et la discipline permettent justement de créer de l'atmosphère. On n'est pas du tout dans le laisser-aller, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un travail, cette sensualité, cette suavité dont parlait à très juste titre Stéphane. Elle vient notamment d'un magnifique travail sur les attaques, je ne sais pas si vous avez fait attention. On n'est pas tout du tout seulement dans les nuances et dans les juxtapositions de niveau dynamique, mais il y a une façon d'entrer dans l'accord et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel instrument qui entre dans l'accord, on sent vraiment la modification des choses. Donc il y a un paysage instable qui se dessine, enfin, dans la première partie évidemment, c'est vraiment très beau. Et il arrive aussi à faire des phrasés sur d'assez longues distances, là où d'autres simplement mettaient des notes les unes après les autres. Et qui font qu'on est toujours, en tout cas, on est toujours pris, on a toujours envie d'entendre.
Sans accentuer le rubato, sans accentuer.
Exactement.
Non, sans être maniéré, comme on l'avait dit pour la 7, par exemple.
Donc il y a ce sentiment d'éveil, de déploiement général de l'orchestre qui est vraiment magnifique. Je suis un peu moins convaincu par l'Allegro Giusto, qui fait un peu dans la grande forme, je trouve, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est plutôt dans le monde symphonique et pas vraiment dans le monde de l'ouverture.
On a l'impression d'être dans le développement du premier mouvement de la pathétique. Hein,
voilà.
C'est exactement ça.
Exactement. Alors, comme toujours, il arrive à mettre en valeur certaines couleurs, certaines intentions, il arrive toujours à maintenir notre attention. Et donc, on a envie de continuer à écouter. Donc, c'est le principal. Pour moi, en tout cas, il y a le petit zeste de folie et puis surtout d'aller un peu au-delà
côté
justement
viscéral,
de ce qui est
nécessaire. Avait dans la quatrième qu'on n'a pas. Ouais,
et puis d'outrepasser justement le bon style.
Ouais. Hein. Mais justement, est-ce qu'il n'aurait pas été en contradiction avec lui-même s'il avait
Bien sûr, mais on attend un peu de Tchaïkovski quelque chose comme ça qui va un petit peu loin que les bonnes conventions, un peu plus loin que les bonnes conventions.
Ah oui, mais enfin, quelle belle convention.
Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Ce qui m'a vraiment séduit et surpris par rapport aux autres versions, c'est l'aspect un peu euphonique, je dirais. La concentration sur la qualité harmonique de l'orchestre, qui est vraiment absolument sublime, du début à la fin, et puis la manière dont le chef, à la fois dans l'introduction et puis le passage allegro, arrive à maintenir des équilibres sonores absolument sidérants de beauté, de cohérence... j'ai été vraiment, vraiment séduit par ça. Et effectivement, je suis comme Eric, donc je trouve ça vraiment admirable. Mais il y a quand même quelque chose qui nous manque, je ne sais pas, un grain de
un
folie
excès.
Qui fait qu'à la fin, bah, tout le monde va mourir, que ça va être triste et que, voilà, que c'est un poème symphonique et pas la pathétique. Ce n'est pas la même chose quand même. Mais bon, c'est tellement cohérent et tellement beau qu'on n'est pas encore au moment du bilan, mais on va bientôt y arriver. Donc moi, je mettrai cette version au sommet, mais juste après la quatrième.
Oui, à égalité. Enfin.
Est-ce que, messieurs, vous ne voulez pas réécouter quand même la fin de ce Roméo et Juliette, peut-être en gardant la quatrième et la huitième, qui sont les.
Ça me semble une très bonne idée.
Peut-être pour voir si on. On tient justement sur les 20 minutes. On va reprendre peut-être le passage où nous en étions pour aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout très bien.
Tout à fait.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.